entre vous et nous.
L'émission pour bien vivre au quotidien.
Votre émission de service qui vous accompagne tous les lundis entre 12h30 et 13h. Et j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Moret, agente immobilière pour Néo Immobilier. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Et bienvenue.
Merci.
Avec vous aujourd'hui, Vanessa, on va s'intéresser au financement immobilier. Il y a des différences entre la capacité d'achat, la valorisation bancaire de l'objet, mais il y a des règles qui sont là, toujours présentes, et qui sont à intégrer, c'est comprendre, collaborer, réaliser.
C'est ça, trois étapes simples. On va essayer vraiment de décortiquer tout ça pour nos auditeurs acheteurs, et puis donner encore quelques informations à nos auditeurs vendeurs pour bien comprendre un petit peu tous ces rouages.
C'est quand même assez complexe, hein, tous ces rouages. Par quoi est-ce qu'on commence pour nos acheteurs ? On a des coups de cœur, on voit des biens immobiliers, quelles sont les démarches à entreprendre ?
C'est ça. Donc en fait, du moment qu'on décide de faire l'achat d'un bien immobilier, on veut aller le visiter forcément, on a potentiellement un coup de cœur et puis on aimerait connaître rapidement un petit peu les étapes qui vont être les nôtres avant de pouvoir faire l'acquisition de ce bien. Et puis c'est là aussi qu'on ne le rappelle jamais assez, il faut vraiment s'entourer de professionnels. Aujourd'hui, on va parler de deux professionnels pour le prix d'un, si je peux dire. Avoir tout d'abord un agent immobilier qui a connaissance, hein, juridique, financière, etc. Mais surtout connaissance des rouages un petit peu de tout ce financement hypothécaire afin que l'agent puisse déjà parler au préalable, même avant la visite, de tous ces éléments qui vont être la capacité d'achat, la recherche de financement.
Ça, c'est hyper, hyper important. Ça veut dire quel genre d'études vous devez faire typiquement pour être agent immobilière ? Vous maîtrisez le domaine des finances de manière extrême ?
On devrait. Non, alors effectivement, si on a la chance d'être entouré de professionnels du financement, c'est ce qui est mon cas, donc j'ai beaucoup de chance, eh bien, on se doit d'avoir la possibilité de pouvoir compter donc sur le financier, donc l'analyste qui va pouvoir reprendre le relais en fait avec l'acheteur. Mais c'est vrai qu'un agent immobilier professionnel se doit d'avoir les connaissances de base, notamment au niveau de quels fonds propres faut-il avoir pour faire l'acquisition d'un bien en résidence principale, les différences qu'il y a avec l'acquisition d'un bien en résidence secondaire aussi, des choses comme ça. Et puis de se tenir informé, alors là est toute la volonté de l'agent aussi, mais de se tenir informé de la situation hypothécaire, la situation des banques et d'autres organes financiers, pas que les banques, hein, qui financent les hypothèques.
Et les assurances aussi, je crois.
Les assurances aussi, ça dépendra du dossier, de beaucoup de choses, mais effectivement, il y a certaines assurances qui financent l'achat, qui octroient des hypothèques. Et oui, l'agent qui a ces connaissances-là peut également mettre un petit peu plus de confiance dans la relation qu'il a avec l'acheteur. Et puis aussi, la relation avec le vendeur, hein, qui de base est importante pour le rendre attentif à quels seront les challenges, les différentes complexités auxquelles son futur acheteur va devoir faire face.
C'est vrai qu'on avait eu l'occasion déjà d'en discuter, déjà de, bah, si on est vendeur, de préparer son bien immobilier pour qu'il soit attrayant et qu'il soit, je dirais, conforme en quelque sorte. Et puis après, ben, vous êtes un peu le tampon, le relais entre le vendeur et l'acheteur.
C'est ça. Lorsqu'on fait l'estimation, on en a beaucoup parlé dans ces émissions-là, on rend toujours un prix, une fourchette de prix au vendeur. Et moi, en tout cas, je le fais régulièrement. Je le maintiens informé de l'évolution du marché hypothécaire pour que son prix de vente affiché soit aussi en lien avec ça. Parce qu'il n'y a rien de pire, hein, que de mettre sa maison en vente, trouver l'acheteur, quel coup de cœur, qui veut acheter absolument, mais qui ne se fait pas financer par la banque. Et on va en parler, on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire au préalable pour que ça n'arrive pas.
Ok, alors, on est tout ouïe, on veut comprendre, Vanessa.
Alors effectivement, on va aujourd'hui parler, en détail, de la différence qu'il y a entre la capacité d'achat qu'un acheteur a, et puis la valorisation bancaire qui arrive dans un deuxième temps. Donc si on se met dans la peau d'un acheteur, on va peut-être avant même visite, hein, avant de démarrer son processus de recherche et d'achat, on va aller demander à sa banque, très souvent, combien on a et qu'est-ce qu'on a à disposition pour acheter un bien immobilier.
Ok, logique.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme revenu, et puis jusqu'à combien on peut se permettre d'aller. C'est-à-dire qu'on va normalement, après en tant qu'acheteur, cibler des biens qui sont dans notre budget.
Qui sont justement en lien avec le budget.
Exactement.
Est-ce que c'est la banque aussi qui peut nous donner des conseils concernant le deuxième pilier ou faudrait encore avoir un retour annexe ?
Bien sûr, ils peuvent. Alors c'est vrai que nous, on conseille toujours l'analyse globale, le scan complet du profil de l'acheteur, et c'est pour ça qu'on parlait de deux professionnels pour le prix d'un. C'est important d'avoir également un conseiller en financement hypothécaire, quelqu'un qui est véritablement un expert du domaine et qui va pouvoir décortiquer décortiquer toutes les petites choses qui font du revenu à revenu, quelles sont les charges aussi, etc. On va aussi en discuter, et qui puissent vous conseiller au niveau de la LPP, combien de LPP je peux prendre pour faire l'achat d'un bien immobilier. On a tous un dossier différent, donc on doit pouvoir scanner ça de manière précise.
D'où l'intérêt du professionnel.
C'est ça, c'est ça. Votre agent immobilier, normalement, devrait pouvoir vous mettre en contact avec un professionnel, donc un conseiller financier. La banque peut le faire, effectivement. Votre propre assureur, parce que parfois, on a quelqu'un de confiance. Le but, c'est véritablement de pouvoir, en toute liberté, eh bien, transmettre ces documents à quelqu'un qui va pouvoir les analyser et en retour vous donner quelques pistes et souvent trouver des solutions qui débloquent des fois une situation qu'on pensait
on se dit c'est perdu, jamais je pourrais
et puis en fait parfois ça marche. Ce qui est important donc de comprendre, c'est que l'analyse de la capacité d'achat, elle va définir le budget sur lequel vous pouvez aller. Et puis, dans un deuxième temps, l'analyse financière du bien, elle va intervenir par rapport à la banque. La première étape qui est incontournable pour un acheteur, c'est véritablement de connaître ses propres chiffres. Ça veut dire quel montant je peux me permettre d'engager. Il y a plusieurs règles d'or, mais en tout cas deux là dont on va discuter, qui sont importantes de bien comprendre. Les fonds propres sont l'élément, en tout cas, de base qu'il faut avoir en main pour pouvoir aller acheter quelque chose.
Si on n'a pas économisé, c'est...
Exactement. Si je n'ai pas d'argent sur ma carte, je ne peux pas aller faire des commissions, c'est la même chose. Là, on parle de fonds propres. Sans ça, eh bien, on n'achète pas. Les fonds propres, globalement, correspondent à 20% du prix d'achat. Ça veut dire que c'est des fonds propres que l'on amène, qui ne sont pas amenés par la banque.
Voilà.
Ces fonds propres, ils peuvent être plusieurs choses. Mais effectivement, c'est 20% minimum lorsqu'on fait un achat en résidence principale. C'est le minimum qu'on doit amener. Et ça ne comprend pas les frais de notaire. C'est-à-dire que les frais de notaire, qui sont à la charge de l'acheteur globalement, doivent être apportés en plus.
Ouais, c'est important de le notifier parce que parfois on omet ce genre de détails.
Voilà, et si on n'est pas entouré correctement, on oublie de nous le dire. Donc c'est vrai que la facture finale, eh bien,
elle fait mal.
Elle pique un peu parfois. Donc les frais de notaire ne sont pas inclus dans ces 20% de fonds propres. Ces 20% de fonds propres, on peut aussi les diviser en deux choses. On parlait de la LPP tout à l'heure, de la prévoyance professionnelle. Eh bien, 10% de ces 20%, donc la moitié,
pourrait venir de la
LPP. Les 10 autres pourcents doivent être du cash pur,
okay,
de l'argent que vous avez sur vos comptes. Voilà. Les revenus, donc c'est le salaire, c'est ce qu'on gagne lorsqu'on travaille, et bien c'est d'une fois que donc tous ces fonds propres sont réunis, l'établissement financier va s'assurer qu'on peut supporter l'hypothèque sur la base de charges théoriques. Et c'est là qu'on va parler de ce fameux ratio, les charges et le revenu.
Là, on fait une projection.
Exactement. Ces charges théoriques, elles sont théoriques, c'est-à-dire que c'est sur la base d'une analyse qu'on va pouvoir développer avec un conseiller financier.
Non, mais c'est à un moment X.
Exactement.
Voilà, on ne sait pas forcément, il y aura peut-être des changements dans le futur, mais ça, on ne peut pas le prévoir.
C'est aussi pour ça que lorsqu'on fait le démarrage, on est vraiment aux prémices de notre recherche immobilière. Nous, on le conseille toujours à nos acheteurs. Allez-y déjà, prenez contact avec un spécialiste du financement immobilier, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous démarrez votre recherche, mais que vous allez concrétiser dans 6 ou 8 mois. Dans un an, dans deux ans, ouais. Parce que vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez, ou parce que aujourd'hui vous n'avez peut-être pas la capacité au niveau des revenus pour faire cet achat, alors que vous avez un projet ou un projet qui est avéré et vous savez que dans 6 mois ou une année votre situation elle va changer. Et là encore, la projection avec le professionnel est importante.
Ouais,
pour pouvoir bien se positionner.
C'est rassurant aussi, puis ça nous permet de se positionner correctement et d'avoir les bons atouts en main.
Exactement. Une règle aussi à ne pas oublier, c'est que les charges du ménage. Donc, et dans charge, il y a beaucoup de choses. On ne va pas toutes les énumérer aujourd'hui.
Mais il y en a, oui.
Elle ne devrait pas être au-delà d'un tiers de son revenu.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on entend parfois des petits chiffres comme ça. La banque va dire que vos charges, elles ne doivent pas dépasser les 33%. C'est un chiffre relatif. Des fois, c'est un petit peu moins, un petit peu plus selon les organes bancaires. Mais on le dit. Normalement, pas plus d'un tiers de charge par rapport à votre revenu. Sinon, la charge théorique ne pourra pas être soutenue.
Ouais, c'est un petit détail hyper important.
C'est important. Ouais. C'est pour ça que parfois aussi, on arrive auprès de la banque nous fait un calcul relativement rapide, sans l'analyse de l'objet dont on va parler, et va nous dire, là, ça va être un petit peu juste. Là, encore une fois, le conseiller en financement peut entrer en jeu et dire, ok, c'est des charges théoriques. Donc après, on parle de charges réelles dans un deuxième temps, et là, on se rend compte que parfois, il y a des solutions qui peuvent être trouvées.
Ok. D'où l'intérêt des professionnels, on y revient toujours.
C'est ça.
Donc on parle de collaboration là, vraiment.
Tout à fait, tout à fait. Et cette collaboration-là, on en parle tout à l'heure, mais pour terminer sur la deuxième étape donc, de cette valorisation, la valorisation bancaire, elle va arriver après qu'on ait fait notre capacité d'achat, après qu'on ait visité le bien qui nous plaît, après le coup de cœur recherché par tous les acheteurs et vendeurs, bien sûr. La banque va être sollicitée pour donner son avis et dire « Ok, j'octroie une hypothèque pour cet objet-là à ses clients. »
Ah ouais, donc c'est vraiment bien spécifique. C'est pas vous avez une enveloppe tot et vous pouvez choisir votre bien immobilier. Non, c'est vraiment... Alors le client toujours le même, mais on pourrait imaginer qu'ils nous disent « Bon voilà, vous avez telle capacité, maintenant allez chercher ce qui vous plairait. »
Exactement. On prend l'exemple tout simple. Une maison à 1 million de francs, j'ai la capacité d'achat pour 1 million de francs, on m'a calculé ça, mes revenus me le permettent. Et puis je trouve cette maison à 1 million, elle est affichée à 1 million, donc tous les feux sont au vert. Je retourne auprès de ma banque ou je sollicite un conseiller financier pour qu'il scanne différentes banques. Et puis j'ai peut-être une banque ou l'autre ou toutes les banques qui vont me dire « Bien écoutez, effectivement vous pourriez acheter, par contre nous ne valorisons pas cet objet-là à ce prix-là. » Et là, on parle toujours de 20% de fonds propres, 80% d'hypothèque. Sur ce bien à 1 million, pour lequel j'ai la capacité d'achat, j'ai peut-être une banque qui va me dire « Moi, je vais vous financer à hauteur de 60 ou 70% au lieu de vous financer à hauteur de 80%. »
Ah ouais, ça change la donne.
Ça change la donne.
On est avec Vanessa Moret, agente immobilière à Néo Immobilier. On revient vers elle pour voir, une fois que le OK de la banque est là, qu'est-ce qu'on fait ?